Cette chronique en droit du travail vous est présentée par Coderre Avocats, vos alliés juridiques en relations de travail et en gestion des ressources humaines. Visitez coderreavocats.com.
Au 1047 Outaouais.
Vous écoutez l'Outaouais maintenant avec Louis-Philippe Brûlé,
votre point de repère.
OK, on va parler de droit du travail avec notre spécialiste, Maître Philippe Coderre. C'est un peu une suite de la chronique de la semaine passée. Salut Philippe.
Salut LP.
On a parlé des contrats de travail la semaine passée. Tu as eu pas mal de questions et de commentaires, je pense.
Ben oui, effectivement. Tu sais, des fois, quand on prépare des chroniques, on ne sait pas trop les sujets qui vont accrocher les gens. Puis souvent, ce qu'on réalise, c'est que les sujets plus généraux qui concernent tout le monde, ce sont des sujets qui vont peut-être être plus pertinents. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler des clauses restrictives. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, la semaine dernière, je t'avais dit que dans les contrats de travail, quand on les fait réviser, c'est souvent ces clauses-là qui valent la peine d'être révisées. Parce que justement, ça a beaucoup d'impact. Et alors aujourd'hui, on va aller en détail un peu là, sur qu'est-ce que les clauses restrictives.
Oui, on avait effleuré ça la semaine passée. Donc, allons-y. Il y en a combien de sortes de clauses restrictives, Philippe?
Bien, les plus connues, là, il y en a trois de très connues. D'abord, la clause de non-concurrence. Non-concurrence, ça veut dire, si vous regardez votre contrat de travail ce soir à la maison, tout le monde, si vous avez une clause qui vient dire que vous ne pouvez pas travailler dans un secteur donné, pendant une durée donnée et sur un territoire donné, ça, on appelle ça une clause de non-concurrence. L'objectif de cela pour les employeurs, c'est de s'assurer que la perte d'un employé utile ou important pour son entreprise ne vienne pas abaisser son chiffre d'affaires parce que d'autres clients ou d'autres entreprises voudraient bénéficier de son expérience. L'autre sorte de clause, ce sont des clauses de non-sollicitation. Ça, c'est très commun aussi. Vous quittez et vous engagez à ne pas solliciter les clients de l'employeur ou les employés. On peut l'élargir aux employés, parce que des fois, il y en a qui quittent et qui vont venir dire à leurs amis au travail, « Hey, j'ai trouvé une nouvelle job dans tel domaine, viens avec moi. » Donc ça, ces clauses-là viennent protéger l'entreprise, si on veut, de cette façon-là. Et il y a des clauses de confidentialité, qu'on appelle en anglais des non-disclosure agreements, qui prévoient des obligations qui vont continuer, perdurer après la fin du contrat de travail. Et finalement, il y a certaines variantes. Il y a une clause qui s'appelle garden leave. C'est des clauses de jardinage qu'on appelle. C'est pas vraiment établi en droit québécois encore. Je sais même pas si ce serait légal en droit québécois. Okay. Mais cela étant, c'est très populaire en Angleterre, aux États-Unis et en common law. Ce que c'est essentiellement, c'est que l'employeur utilise le préavis de démission ou de congédiement prévu dans le contrat. Puis il vient dire dans le contrat que si un des deux veut mettre son contrat, pendant ce préavis-là, l'employé ne peut pas travailler nulle part, mais l'employeur le paye comme s'il était à l'emploi. Donc, c'est une petite variante qui protège un peu les employeurs des critères de la clause de non-concurrence là, qui doivent tout le temps être respectés. Donc, c'est une nouvelle façon de faire. Je ne sais pas si ça va s'appliquer en droit québécois.
Fait qu'on appelle ça la clause jardinage parce qu'au fond, il reste dans la cour arrière de l'entreprise. C'est un petit peu ça.
Exactement. Et on utilise le préavis plutôt que la clause de non-concurrence. Donc, c'est très ingénieux, là, je dois être.
Bon, on a parlé des clauses les plus importantes, les plus connues, non-concurrence, non-sollicitation, confidentialité. Il y a quand même des limites à ces clauses-là, Philippe.
Oui, tout à fait. Puis c'est vraiment là que l'exercice d'analyse est très important. D'abord, il y a une limite au niveau de la durée. Ça, c'est évident. On peut pas interdire à quelqu'un de travailler dans un domaine pendant toute sa vie ou pendant 3-4 ans. Le plafond, généralement, là, que la jurisprudence accepte, c'est de 24 mois. Mais ça, c'est dans des cas exceptionnels. On parle vraiment des emplois très, très spécialisés. Normalement, ce que je dirais aux employeurs, c'est qu'une clause qui est de 12 mois et moins risque d'être approuvée par un tribunal. Donc, sérieusement, si vous dépassez 12 mois, il faut que vous ayez des bons arguments. Au niveau du territoire, eh bien ça, également, c'est la même chose. Mettons qu'on est à Gatineau, puis que quelqu'un quitte un bureau d'avocat, ben, je ne peux pas l'empêcher d'exercer son métier sur tout le territoire de la ville de Gatineau. Il faut que ça soit ciblé. Et ça, ça va dépendre de l'entreprise. Des entreprises, il y a des secteurs dans lesquels il y a peut-être juste 5 entreprises au Québec. Là, ça peut peut-être être justifié de couvrir la province au complet. Ce qu'on conseille souvent, c'est d'annexer une carte au contrat de travail qui va couvrir le territoire. Parce que si le territoire est imprécis dans la clause, ça ne tiendra pas la route.
C'est
exactement.
Ça.
Et finalement, il y a les activités qui doivent aussi être limitées. Souvent, on va voir dans les clauses en concurrence que vous ne pouvez pas travailler dans une entreprise concurrente. Eh bien, ça, à mettre maintes reprises par les tribunaux. Là, ça a été jugé comme trop ambigu. Parce que l'interprétation de l'un sur ce qui est concurrent versus l'interprétation de l'autre, c'est pas la même chose. C'est important d'être excessivement précis, de dire voici quel job, quel emploi vous pouvez pas faire et voici quel type d'entreprise précisément oui. vous ne pouvez pas servir.
Et si on donne l'exemple des médias, mettons que je travaille en radio, c'est peut-être une clause qui m'a interdit de travailler en radio dans un territoire X pour un certain temps, mais pas dans l'ensemble des médias ou du monde des communications, là.
Exact. Alors que si ton contrat disait une entreprise concurrente, ben c'est quoi une entreprise concurrente? Est-ce que le TVA 18 heures, c'est une concurrence à vous? Ça suscite, par exemple, beaucoup d'interrogations. Donc, ces clauses-là, souvent, vont tomber. Et finalement, il y a des clauses hybrides aussi qu'on va voir dans les contrats. Puis ça, il faut faire attention. Il y a c'est surtout les professionnels qui vont voir ça dans leur contrat de travail. La clause vient dire, vous ne pouvez pas faire affaire avec les clients que notre entreprise dessert. Sauf que si vous ne mettez pas de territoire avec ça, votre clause ne tiendra pas la route. Donc, vous ne pouvez pas faire affaire avec tel client dans telle région. Si il y a bien des entreprises, j'ai vu bien des contrats où c'est écrit, vous ne pouvez pas faire affaire avec nos clients. Mais d'abord, c'est qui vos clients? Il faut les définir. Est-ce que c'est les clients depuis le début de l'existence de votre entreprise? Et c'est sur quel territoire que ça s'applique?
Philippe, est-ce que ça veut dire qu'un employeur là, qui respecterait tout ce que tu viens de dire là, par rapport aux clauses dont on parle pourrait donc congédier une personne avec la tête tranquille en sachant très bien que cette personne-là ne pourra pas le concurrencer?
Il faut un motif sérieux. À partir du moment où il n'y a pas de motif sérieux de mettre fin à l'emploi, la clause va tomber. Donc ça, c'est important de le savoir. Et la définition de motif sérieux au sens du Code civil, c'est des motifs là qui sont propres à des fautes commises par l'employé. Donc si c'est pour des raisons économiques, par exemple, vous licenciez tout le monde, la clause en concurrence pourrait tomber. Donc ça, c'est important de le savoir.
Qu'est-ce que je dois faire si, bon, je suis un employé, j'ai signé quelques clauses et j'ai une offre d'emploi ailleurs qui est vraiment intéressante, là, que j'aimerais vraiment considérer, voire même accepter?
Bien, ça, c'est des questions qu'on a souvent. Malheureusement, à partir du moment où vous signez quelque chose, on doit présumer là, que le texte est valide. Ce que vous pouvez faire, c'est de faire vérifier votre contrat par un avocat qui va vous dire est-ce que ça lui apparaît abusif ou pas. Et même si ça lui apparaît abusif, comme je vous dis, à prime abord, là, vous êtes lié par cette clause-là. Alors, ce que je dirais à l'employé dans ce cas-là, s'il a une bonne relation avec l'employeur, ce serait peut-être de négocier une nouvelle clause ou d'une nouvelle façon d'appliquer ces clauses-là, d'être transparent, parce que c'est sûr que si vous faites ça en cachette et que l'employeur l'apprend, lui, il va sortir une injonction pour vous empêcher de travailler dans votre nouvel emploi et vous ne serez pas plus avancé. Et là, votre seul argument que vous pourrez faire valoir dans le cadre de l'injonction, c'est qu'il n'y a pas apparence de droit parce que la clause est abusive. Et pour ça, il faut que ça soit frappant que c'est abusif.
Ouais.
Alors moi, je vous dirais là, de peut-être en parler à votre ancien employeur si vous êtes dans cette situation-là.
Bon, est-ce que j'ai déjà vu dans le passé que ça pouvait se négocier avec une pénalité et des fois, le nouvel employeur veut tellement avoir cette personne-là qu'il est prêt à la payer, la pénalité?
Exactement. Ça se fait fréquemment, ça. On parle surtout aussi de postes ou de domaines dans lesquels la main-d'œuvre est très, très rare. Alors, pour un employeur, ça vaut peut-être la peine de donner une couple de milliers de dollars à l'ancien employeur pour s'assurer que tout est correct. Ça, c'est des choses qu'on peut faire, effectivement.
Quand tu parlais de clause de non-sollicitation, est-ce que ça empêche un employé d'appeler ses clients juste pour les aviser? Ben voici, en date de, je sais pas, dans deux semaines, je quitte l'entreprise.
Ouais, ça, c'est la grosse source de litige quand on parle de clause de non-sollicitation. Vous avez le droit, comme employé, d'appeler tous vos clients pour leur dire que vous quittez. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est les prendre par la main pour leur montrer comment quitter votre ancien employeur. Là, je vais juste donner l'exemple des avocats parce que c'est le domaine dans lequel que je connais. Supposons qu'un avocat est lié par une clause de non-sollicitation, il quitte. Même si son employeur ne veut pas qu'il avise ses clients, il a le droit de le faire.
Okay.
Il ne peut pas faire, par exemple, c'est dire au client, ben si tu veux continuer avec moi, là, voici le formulaire à remplir, ou voici comment ça fonctionne.
Voici le petit tour de passe-passe là, pour que tout ça soit legit, là, légal.
Exactement. Je vous dirais là, que quelqu'un qui veut être by the book, là, ce serait vraiment de dire, je quitte, il y a quelqu'un au bureau qui va reprendre votre dossier, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Par la suite, si le client vient vous voir, ben vous ne l'avez pas sollicité, vous l'avez juste avisé que vous avez quitté, puis ça, c'est tout à fait permis.
Les clauses de confidentialité, là, je m'en doute un peu, mais explique-nous pourquoi c'est aussi important, Philippe.
Bien, c'est important parce que, surtout pour les employés qui ont accès à des secrets commerciaux, où on parle beaucoup des gens là, qui vont être dans les pouvoirs décisionnels de l'entreprise,
Pour pas que je parte avec la recette secrète du Big Mac, là.
Exact, mais ça peut aller plus loin que ça. Des fois, c'est des stratégies marketing qui sont mises en place. C'est un plan d'affaires qui est innovateur. Ces clauses-là viennent protéger cela. Et ce qui est important, ces clauses-là, c'est que supposons que votre clause en concurrence tombe parce que le juge trouve que le territoire est trop gros ou que la durée est excessive, vous avez quand même cette protection-là comme employeur en disant, ben même s'il va chez le concurrent, techniquement, il est lié par la clause de confidentialité. Maintenant, comment qu'on prouve si quelqu'un a dérogé à ça? Ben, ça, c'est une autre paire de manches. C'est ça qui est plus difficile. Donc, je vous dirais que les cas frappants sont plus faciles à prouver, mais c'est plus rare, ça.
Évidemment. Avant de te laisser, Philippe, un employeur qui nous écoute cet après-midi puis qui réaliserait que son contrat de travail, là, ben peut-être qu'il n'y a pas les clauses de non-concurrence puis qui voudrait ajouter ça à des contrats qui sont déjà faits ou qui voudrait peut-être modifier la façon qu'il a formulé les clause, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il a le droit de, entre guillemets, revenir en arrière sur certains contrats?
On peut le faire. Ce que je vous dirais dans un cas comme ça, c'est de négocier la nouvelle clause. Et comment qu'on négocie ça? C'est que souvent, on donne une contrepartie financière à l'employé pour la modification de son contrat. Parce qu'un employé pourrait très bien refuser de signer la nouvelle clause. Puis l'employeur, s'il congédie à cause de ça, ce sera un congédiement illégal. Alors, ce que les employeurs devraient faire, c'est d'aborder la question avec l'employé, dire par exemple, notre entreprise a évolué beaucoup. C'est plus le même contexte que quand tu as signé ton contrat de travail. On aimerait soit modifier la clause de non-concurrence ou en ajouter une. Voici un chèque ou voici une promotion en contrepartie. Il faut absolument qu'il y ait une contrepartie parce que s'il n'y en a pas, il pourrait y avoir un débat que l'employeur, considérant qu'il était en position de force devant l'employé, qui ne veut pas perdre sa job, ben, il a abusé de ce droit-là pour finalement faire avaler une clause que l'employé n'était pas à l'aise de signer. Alors ça, je vous dirais encore une fois, une bonne discussion franche avec une contrepartie financière, c'est assez béton.
Philippe, toujours très intéressant. Merci beaucoup et on reprend ça évidemment la semaine prochaine.
Oui, merci, à la semaine prochaine.
Salut.